cette nouvelle parenthèse, j'avais envie de changer un petit peu de registre. Et puis, les beaux jours arrivant, l'envie un peu de farnienter, de ne pas trop se prendre la tête. J'ai un peu fouillé dans ma bibliothèque, dans les ouvrages que je côtoie depuis quand même de longues années. Et puis, tout d'un coup, je suis tombée sur les aventures d'Arsène Lupin. Et donc, ça m'a donné l'idée de faire une chronique autour de ce personnage de littérature et puis autour de son auteur. Alors, quelques mots sur l'auteur en question. Il s'agit de Maurice Leblanc. Maurice Leblanc, c'est quelqu'un qui était né dans les années, je crois qu'il est né en 1864, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. Il est né en Normandie, à Rouen, et c'est quelqu'un qui fait partie de la bonne bourgeoisie normande et qui a toujours voulu travailler dans la littérature. C'est-à-dire qu'il a d'abord été journaliste, il a écrit des contes, des nouvelles, qui ont été remarquées par les gens, les cercles littéraires, on pourrait dire Anatole France ou des gens comme ça, mais il n'a pas rencontré un très grand public. Donc, en parallèle, il faisait un travail de journaliste. Et puis un jour, je crois que c'était en 1905, un éditeur, enfin un patron d'un journal qui s'appelle Je sais tout, lui a demandé d'écrire une nouvelle un peu policière, un peu à la façon de Conan Doyle, le créateur des Sherlock Holmes. Et il a donc écrit cette nouvelle qui s'appelait L'arrestation d'Arsène Lupin. Et c'est là que l'aventure a commencé. Et donc, il a créé ce personnage-là. Donc, c'était une nouvelle, tout d'abord. Ensuite, qu'il a complété pour pouvoir sortir le premier des Arsène Lupin, qui s'appelle Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur, et qui est fait de plusieurs nouvelles. Et en fait, on pourrait dire un peu à la façon de Georges Simenon, qui a créé le personnage de Maigret, c'est qu'il est un petit peu allé à reculons, c'est-à-dire qu'il considérait lui aussi que finalement, ça créature Arsène Lupin, c'était pas forcément ce qu'il aurait eu envie de faire en littérature. Et en même temps, quand on regarde un petit peu toute l'œuvre, enfin tous les romans qui ont été créés, c'est quand même quelque chose d'assez formidable. Alors bon, je me tendrai pas beaucoup plus sur Maurice Leblanc, parce qu'en fait, en même temps, il était le représentant vraiment, comme je l'ai dit, de la bourgeoisie, de la classe un peu huppée. Et c'est quelque chose, c'est la société qu'on fréquente quand on lit les Arsène Lupin. Il était aussi féru d'histoire, et ça on va le retrouver tout au long des romans, puisque les intrigues, qui sont à la fois des intrigues policières, on pourrait dire, sont souvent entremêlées avec des mystères historiques, notamment je sais pas, par exemple 813 ou bien L'Aiguille Creuse, puisque dans L'Aiguille Creuse, qui est un des romans les plus connus, en fait L'Aiguille Creuse, que l'on trouve à Étretat, renferme le trésor des rois de France. De la même façon, il y a plusieurs récits qui nous plonge un peu dans le pays de Caux, où on va de ruine en ruine, on fréquente les abbayes, et à chaque fois il y a des mystères qui sont liés un petit peu à des trésors perdus et qui reprennent un peu des grands thèmes historiques. Donc il était très féru d'histoire, et puis aussi il était très amoureux de la Normandie. Un peu, la Normandie, c'est Flaubert, c'est Maupassant, c'est aussi Jules Verne. C'est donc un pays, un lieu où vraiment énormément d'écrivains ont vu le jour et ont travaillé. Et Maurice Leblanc, vraiment, il situe énormément de ses actions, d'Arsène Lupin en Normandie, tout au long du fleuve la Seine. C'est-à-dire que ça va de Paris jusqu'à Rouen, à peu près, jusqu'au Havre. Voilà. Donc ça, c'est un peu pour Maurice Leblanc. Après, pour le personnage d'Arsène Lupin. Bon, Arsène Lupin, je pense que tout le monde, quand même, plus ou moins, en a entendu parler, tout le monde le connaît, et en même temps, c'est peut-être un personnage un petit peu plus ambigu qu'il n'y paraît. À savoir qu'effectivement, c'est un gentleman, ce qu'on dit un gentleman cambrioleur, il a un peu des côtés Robin des Bois, et puis aussi, c'est un charmeur, c'est quelqu'un qui n'utilise pas la violence, c'est-à-dire qu'il fait tout dans l'esprit, et ça reprend un peu cet esprit français de la Belle Époque, c'est-à-dire qu'on fait tout avec énormément d'élégance. Donc c'est son style, mais un petit peu quand au fil des romans, on découvre des fois des facettes un petit peu différentes. Il y a des fois des troubles chez lui, notamment dans une des aventures où un de ses compagnons, notamment un jeune, doit être condamné à mort. Et là, on sent quand même une fêlure dans le personnage. De la même façon, dans ses rapports avec les femmes, il y a toujours beaucoup d'ambiguïté. Alors à la fois, il les charme beaucoup, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui tombent sous son charme, mais lui-même aussi aussi est souvent blessé, c'est-à-dire que quand on arrive à reconstituer un petit peu sa biographie, bon, biographie bien évidemment imaginaire, mais qu'on retrouve de roman à roman, et il y a beaucoup de gens qui s'y sont attachés. On sait qu'il a eu de grands amours dans sa vie, qu'il a eu deux enfants dont un qui a disparu, enfin des choses assez terribles qui se sont passées, et donc qui font de ce personnage à la fois très élégant, très brillant, quelqu'un peut-être d'un petit peu plus trouble. De la même façon, son enfance aussi est marquée par un drame. C'est-à-dire qu'en fait, il est né d'une mère qui était de petite noblesse et puis d'un père qui était, professeur de boxe française, et je ne me trompe pas. Et sa mère s'est trouvée très vite toute seule et donc a été un petit peu recueillie, je mets ça entre guillemets, par une très grande famille de françaises, les Dreux-Soubises. Bon, tout ça est inventé, bien évidemment. Mais donc, sa mère a été un peu considérée comme une parente pauvre. Et l'enfant, Arsène Lupin, face à ce qu'il considère comme une injustice, puisque sa mère n'était pas bien traitée, il vole le collier de la reine, le fameux collier de la reine, à cette famille-là, de façon tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire qu'il faut lire le livre pour pouvoir savoir comment il s'y prend. Et donc, en fait, c'est une revanche de cet enfant face à l'injustice qui frappe sa mère. Et sa mère est chassée de cette famille. Elle mourra quelques temps plus tard. Et c'est donc un drame qui fonde un peu le destin du jeune Arsène Lupin. Et c'est ça qui fait... On a l'impression qu'il y a quand même toujours une revanche chez lui. C'est-à-dire qu'à la fois, il appartient à ce grand monde, puisqu'il prend énormément de pseudonymes, il incarne énormément de personnalités, mais à chaque fois, ce sont très souvent des hommes du monde, voire des gens de la noblesse. Mais en même temps, il y a chez lui cette volonté aussi de rendre justice peut-être au petit peuple. Et d'ailleurs, dans tous les personnages, il y a aussi beaucoup de personnages de gens beaucoup plus simples. Et à chaque fois, on pourrait dire qu'il va à leur secours. Donc après, aussi un autre aspect intéressant du personnage, donc qui sort un petit peu des sentiers battus, c'est son côté aussi très patriotique. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs romans qui se passent pendant la guerre de 14-18. Maurice Leblanc, bien sûr, a vécu cette guerre, hein, puisque il ne l'a pas faite, puisqu'il était déjà trop âgé, mais en même temps, il l'a subi comme tous les Français. Et c'est vrai que Arsène Lupin, là, se dévoile un côté patriotique qu'on ne ressentait pas forcément dans les premiers romans.
C'est le plus grand, le plus charmant, le plus élégant, avec ses gants ou bien sans gants, à la scène. Quand il s'amène, quand il s'en mêle, tout se démêle, tout se dégèle, et sans selle, la scène. Quand il s'approche, on cache les broches et les sacoches, il vit les poches, sans arrivance, la scène. C'est le roi des cassins, c'est le roi des tombes, il est brillant comme le diamant, rapide comme le vent. Avec son parapluie, sa moustache mise en pli, Larsen. Avec son flair infaillible, il est irrésistible, Larsen. Irrésistible et parfois invisible, le bel Larsen. C'est un perceur de coffre-fort, c'est un casseur de joli cœur, le redresseur de tous les torts, Larsène. C'est un truand, un gentleman, un bon vivant, étourdissant, jamais perdant, toujours gagnant, Larsène. Quand il s'amène, quand il s'en mêle, tout se démêle, tout se dégèle, et sans selle, Larsène. C'est le roi des casseurs, c'est le roi des tombes, il est brillant comme le diamant, rapide
Donc voilà, il y a différents aspects de sa personnalité qui sont intéressantes et qui méritent qu'on aille un petit peu plus loin dans la découverte du personnage. Alors après, il y a aussi tout le plaisir de la lecture, c'est-à-dire que, bien évidemment, le style, c'est un style très rapide, très vif, qui convient bien à ce type de récit. Alors, Maurice Leblanc le fait sous forme un peu journalistique, c'est-à-dire qu'en fait, comme dans beaucoup de romans policiers, finalement, puisque Conan Doyle fera de la même façon, c'est-à-dire que c'est le docteur Watson qui raconte les histoires de son ami. Là, Arsène Lupin, ces histoires sont racontées par un ami journaliste. On peut penser que c'est Maurice Leblanc lui-même qui tient ce rôle. Et donc, la façon dont c'est raconté, les chroniques qui sont faites, ce sont des chroniques qui sont effectivement très rapides. Il y a beaucoup, beaucoup de dialogues. Les situations évoluent très vite. Il y a beaucoup, beaucoup d'actions. Et c'est un vrai plaisir de se laisser aller, de se laisser prendre à tous ces récits. Alors voilà, donc il y a plusieurs, il y a beaucoup de très grands récits. Bon, un des plus connus, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est celui de l'aiguille creuse, mais il y en a d'autres qui sont aussi vraiment très intéressants, comme Le bouchon de cristal ou 813, Les dents du tigre qui se passent pendant la guerre de 14-18. Et puis moi, j'ai un faible tout particulier pour L'île aux 30 cercueils. Alors, L'île aux 30 cercueils, en fait, le personnage d'Arsène Lupin apparaît très, très peu dans cette histoire. Il apparaît vraiment à la fin. Et là, on a un peu l'impression que Maurice Leblanc l'a rattaché à la grande saga d'Arsène Lupin pour pouvoir peut-être le faire éditer pour qu'il rencontre plus de succès. Et en même temps, c'est une histoire très trouble de vengeance liée à des croyances très anciennes de la Bretagne. Et c'est assez... ça fait vraiment froid dans le dos. Moi, ça m'évoque un petit peu les Dix petits nègres d'Agatha Christie. C'est-à-dire qu'on est pris dans une espèce de folie furieuse de morts qui sont mis en scène avec des femmes qui sont crucifiées, enfin pendues. C'est assez, assez terrible. Et c'est quelque chose qui se démarque un peu de la grande saga d'Arsène Lupin parce que c'est très, très sombre. Bon, à la fin, Arsène Lupin arrive et finalement, il arrive à résoudre cette énigme particulièrement sombre. Mais donc moi, je vous conseille de vous plonger dans la saga. Je dirais qu'il y a bien une bonne vingtaine de titres qui sont tous plus intéressants que les uns que les autres. Alors, il y en a quelques-uns qui se suivent. Je pense le 813 et le bouchon de cristal, ça doit se suivre. Je ne sais pas dans quel ordre c'est. Mais après, vous pouvez les lire dans l'ordre que vous voulez. Donc, le premier, comme je le disais, c'était Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur. Et ça, c'est le premier de la série. Ce sont tout plein de petites nouvelles. Et ça commence par l'arrestation d'Arsène Lupin. Ensuite, on trouve l'histoire du collier de la reine dont j'ai parlé. Et puis, ensuite, la confrontation entre Arsène Lupin et Herlock Sholmès, donc le fameux Sherlock Holmes. D'ailleurs, on dit que Conan Doyle n'a pas beaucoup apprécié que Maurice Leblanc mette en scène son héros et on le fasse tourner un petit peu en ridicule, parce que c'est vrai que Sherlock Holmes, c'est un côté très scientifique, c'est quelqu'un qui regarde les empreintes, enfin, qui étudie tout, qui fait presque scientifique, alors qu'Arsène Lupin, c'est pas du tout ça. On pourrait dire que c'est un peu l'esprit français, c'est-à-dire qu'il fait vraiment marcher son cerveau, et c'est beaucoup... et c'est comme ça qu'il arrive à résoudre les énigmes. Alors, il y a d'autres romans, comme La Demoiselle aux yeux verts aussi, où Arsène Lupin est pris entre l'amour entre deux femmes, qui est assez joli. Et puis, moi, il y en a un que j'aime bien aussi, qui s'appelle La Comtesse de Cagliostro, où là, c'est le très jeune Arsène Lupin. Arsène Lupin a 20 ans, il rencontre ce personnage de Comtesse de Cagliostro, qui serait héritière du fameux Cagliostro, donc qui traîne avec elle. Encore une fois, on retrouve un peu ce côté mystérieux lié à la très grande histoire de France. Et puis, en même temps, bon, c'est simplement une femme qui est une cambrioleuse comme lui, une voleuse. Et en fait, c'est un peu la confrontation des deux personnages qui est assez intéressante. Et là, on en apprend beaucoup sur la personnalité d'Arsène Lupin, la façon dont il arrive à se forger sa personnalité, enfin son personnage. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce roman qui a été adapté en grande partie dans les derniers films qui a été fait avec Romain Duris. Donc pour les plus jeunes, Arsène Lupin, c'est Romain Duris. Pour les plus anciens, c'est Georges Descrières. Mais ça remonte déjà à quelques années. Voilà, donc j'espère que je vous ai donné envie de lire ça, parce que vraiment, c'est quand on a envie un petit peu d'une lecture un peu légère et en même temps qui soit pas trop idiote, on peut se plonger dans les Arsène Lupin. En fait, vous trouverez tous les titres, ils sont en poche, dans plusieurs collections de poche, donc on les trouve très facilement, on les trouve même d'occasion. Et moi, je vous invite un petit peu à découvrir ça. C'est vrai que moi, quand je me suis mis à les lire, je suis rentré dans cet univers et j'ai à peu près tout lu d'un coup.